Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la question israélo-palestinienne. La tension politique a franchi un nouveau pas cette semaine avec l'adoption par la Knesset, le Parlement israélien, d'un texte légalisant des avant-postes construits sur des terres privées palestiniennes en Cisjordanie. Une décision sans précédent permettant à Israël de s'approprier des centaines d'hectares de terres. Un vote qui ouvre la porte à une annexion de facto qui aura du mal à passer l'écueil de la Cour suprême, mais qui ne témoigne pas moins d'un durcissement et d'une certaine fuite en avant de la droite nationale religieuse. Analyse avec nos invités. Laetitia Bucaï, professeure de sociologie à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, auteure de Palestine, de l'État introuvable à la nation en déroute. À quoi servent les dirigeants palestiniens? Une étude du CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Alain Diekhoff, directeur du CERI, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier à paraître en avril prochain, Le conflit israélo-palestinien, chez Armand Collin. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique Vidal, journaliste et historien, directeur avec Bertrand Badie de L'État du Monde aux éditions La Découverte.
Bonjour.
Quel regard portez-vous sur le texte voté à la Knesset quelques semaines après un vote évidemment totalement opposé du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est prononcé en décembre dernier contre les colonies israéliennes? Une résolution sévère qui a pu passer grâce à l'abstention des États-Unis. On sent le rapport de force. Comment expliquer qu'on en arrive là aujourd'hui et quels sont d'après vous les facteurs internes et externes? Dominique Vidal.
Je dirais que c'est un double putsch. Un putsch intérieur de l'extrême droite israélienne et un putsch extérieur contre la communauté internationale après les votes que vous avez rappelés. Il faut dire que si la loi votée dimanche passe le jugement de la Cour suprême, ce qui est quand même peu probable, elle constituera un tournant absolument historique pour le conflit israélo-palestinien puisqu'on passe de la colonisation à l'annexion de la Cisjordanie, comme c'était le cas de Jérusalem depuis 1967. Parce que la loi, vous l'avez dit, elle autorise l'annexion de logements, 4000 environ, dans des avant-postes, ces colonies que le droit israélien lui-même juge illégales. Mais en fait, ça peut permettre l'annexion des avant-postes, puis de la zone C, 65% de la Cisjordanie, et enfin de la Cisjordanie à terme tout entière. Donc on a quelque chose comme la fin de la solution des deux États et l'entrée dans le chemin très tortueux vers un seul État avec une question majeure, c'est quel sera le statut des Palestiniens annexés avec leurs terres. Est-ce qu'ils seront des citoyens de cet État, avec donc tous les droits politiques, y compris le droit de vote, ou bien les sujets d'une forme d'apartheid à l'israélienne? En tout cas, ce qui est clair, c'est que la loi est une violation du droit israélien, qui ne considère pas les terres palestiniennes comme appartenant à Israël, une violation des conventions de Genève et une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors bizarrement, en hébreu, on l'appelle une loi de régulation, mais Benny Begin, qui est le fils de l'ancien Premier ministre Menachem Begin, qui n'est pas vraiment un progressiste, a déclaré que c'était la loi des voleurs.
Est-ce qu'on peut parler de provocation, Laetitia Bucaï?
Je ne sais pas si on peut dire qualifier ça exactement de provocation, dans le sens où je pense que c'est quand même l'aboutissement d'une lame de fond qui est très profonde en Israël. C'est-à-dire qu'il y a une droitisation de la société israélienne, le fait que les gouvernements sont de plus en plus tenus de répondre aux exigences des colons, mais ce qui aussi reflète leur poids croissant au sein de l'échiquier politique ou au sein de la société palestinienne. Donc je crois pas que ça soit une provocation, parce que quand on entend provocation, on peut espérer que derrière peut-être il y aurait un recul, un réajustement après avoir fait peur à tout le monde. Bon, enfin, cela dit, je pense que la Cour suprême israélienne va intervenir sur cette loi, donc peut-être qu'elle sera effectivement elle ne pourra pas être appliquée, mais je crois que c'est vraiment l'expression, ça rend très visible une tendance très profonde en Israël. Et puis, de l'autre côté, une impuissance à répondre à cette politique, puisque je crois que l'autorité palestinienne et l'OLP ont énormément de difficultés à finalement à changer de braquet, puisqu'on n'est plus du tout dans les esprits des accords d'Oslo, dans cette solution qui laisse espérer une solution à deux États. Les dirigeants palestiniens n'arrivent pas à se réajuster à cette sortie d'Oslo. pour le moment.
On l'évoquera peut-être un peu plus tard dans l'émission, Alain Diakhoff, un commentaire de votre part sur donc ce vote de la Knesset. Il était prévisible.
Prévisible, peut-être pas, mais je dirais qu'il y a deux choses qui sont, qui à mon avis il faut souligner après le vote de cette loi de régularisation entre guillemets. La première, elle est juridique quand même. C'est que Israël a toujours pris soin de n'installer ses colonies que dans ce qu'on appelle les terres d'État, c'est-à-dire les terres gouvernementales en quelque sorte en Cisjordanie. Là, en fait, ce qui est validé, c'est l'installation. Et en plus, une validation rétroactive d'installation sur des terres privées. Et donc ça, en ce sens-là, c'est, je crois, extrêmement grave. C'est une étape, en effet, supplémentaire, parce que c'est clairement une atteinte directe à l'état de droit. Donc ça, c'est, à mon avis, quand même extrêmement grave. La seconde constatation, elle est évidemment politique. C'est que si cette loi a été votée, c'est certes dans le contexte aussi international qu'on a pu évoquer avec la résolution du Conseil de sécurité de décembre dernier, mais c'est aussi avec la pression croissante des forces nationalistes, qu'elle soit représentée par le courant sioniste religieux dont Naftali Bennett est le leader et qui clairement a eu un rôle majeur pour faire pression sur Netanyahou lui-même, et aussi ce qui se passe à l'intérieur du Likoud, parce que de façon peut-être un peu paradoxale, Netanyahou est finalement le représentant d'une ce qui commence à devenir une vieille garde, mais soumis à une pression interne de gens plus jeunes qui sont extrêmement nationalistes et beaucoup plus à droite encore que lui. Donc il est dans le fond, il est pas en position de force dans cette affaire.
Alors justement, puisqu'on parle de Netanyahou, il ne voulait pas de l'adoption de ce texte avant sa rencontre avec Donald Trump à Washington le 15 janvier, c'est-à-dire dans quelques jours, c'est tout de suite là. Qu'est-ce que le vote de la Knesset peut changer par rapport à cette rencontre, Dominique Vidal ?
Mais moi, je crois que ce vote affaiblit considérablement le Premier ministre israélien. Parce que, sur le fond, il n'a rien contre l'annexion de la Cisjordanie. Évidemment, c'est son idéologie, c'est celle du Likoud. Mais en même temps, il est plus conscient que d'autres, peut-être avec son expérience politique, du risque d'isolement d'Israël, par la violation aussi flagrante du droit interne et externe. Ce qui a amené, une espèce de valse hésitation difficile à suivre, En décembre, quand il y a eu le premier vote, le 5 décembre 2016, de ce projet de loi, il l'a voté. Ensuite, fin décembre, début janvier, il a essayé d'enterrer la loi, qu'il n'y ait pas de seconde et de troisième lecture. Et puis, il a à nouveau voté. Donc, on a un homme qui, comme le dit Haaretz il y a peu de jours, a perdu le contrôle. Et ce qui est intéressant, je rejoins ce que dit Laetitia Bucquet, c'est qui lui a fait perdre le contrôle. Parce que ce Naftali Bennett n'est pas n'importe qui. C'est le leader du foyer juif, c'est-à-dire l'ancien parti national religieux, ultranationaliste, ultra-religieux, qui est au fond au cœur du processus de colonisation dans l'histoire d'Israël. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un double vertige. Un vertige qui est lié à l'élection de Trump, c'est-à-dire Bennett et l'extrême droite en général se sentent pousser des ailes. Et puis un vertige intérieur qui est d'abattre Netanyahou. Il faut pas oublier que Netanyahou a une série de casseroles. Alors ces casseroles ne sont pas mortelles, mais elles peuvent amener sa chute d'un jour à l'autre. Il est interrogé régulièrement par la police, les services de renseignement. Bref, on a un homme profondément abattu, et c'est ça qui rend la rencontre avec Donald Trump très incertaine. Parce qu'on ne sait rien, en réalité, de ce que va faire Trump. On sait ce qu'il a dit comme candidat. Transfert de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, arrêt de l'idée que la colonisation serait un obstacle au processus de paix.
Il a un peu rétropédalé ensuite.
Oui, refus de faire pression sur le gouvernement israélien, il l'a dit en toutes lettres. Il a nommé David Friedman, un ami des colons, comme ambassadeur à Jérusalem, donc. Il a nommé son gendre, qui est aussi un homme très proche des colons, comme haut conseiller sur ces questions. Bref, il s'est largement engagé, mais en même temps, on voit qu'il est pris dans toute une série de contradictions, et bien d'autres que celles du Proche-Orient, raison pour laquelle il avait dit à Netanyahou de calmer le jeu. Or, Netanyahou n'a pas pu. Il a voulu sans doute, mais il n'a pas pu calmer le jeu. Donc on est devant une situation extrêmement imprévisible. Comme disait Noam Chomsky, la seule chose prévisible avec Trump, c'est qu'il est imprévisible.
Vous écoutez RFI, Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, est-ce qu'on peut justement, pour poursuivre avec l'élection de Donald Trump, voir finalement dans l'arrivée de cet homme à la Maison Blanche l'occasion pour les forces nationalistes israéliennes de se débrider, et d'où le vote à la Knesset, Alain Diakov?
Oui, non, mais ça c'est sûr que la droite en Israël espérait l'élection de Trump, ça il y a aucun doute là-dessus. Hein. Il y a eu une campagne d'ailleurs auprès des binationaux américains en Israël qui était extrêmement vivace et qui était clairement pro-Trump. Hein. Mm. Donc oui, il l'espère, mais comme Dominique Vidal l'a dit très justement, Trump est tellement imprévisible que d'un côté c'est vrai, il semble aller clairement dans ce sens-là, et en même temps la conversation téléphonique qu'il a eue avec Netanyahou, il lui a dit très clairement qu'il était hostile au développement de la colonisation. Donc c'est pas évident de savoir exactement quelle sera sa position, s'il en a une sur le long terme, ce qui n'est même pas certain, honnêtement. Je dirais que Netanyahou va certainement aller aux États-Unis en ayant une feuille de route assez claire, c'est-à-dire essayer d'obtenir le soutien, mais sans savoir exactement ce que Trump va lui dire.
Mmh. Alors, on l'a dit en introduction, ce vote aura du mal à passer l'écueil de la Cour suprême. En tout cas, il clarifie les positions des nationalistes israéliens. C'est peut-être une première fois de façon aussi officielle. Et finalement, Laetitia Buca, qu'est-ce que ça peut changer ?
Ça change quelque chose dans la visibilité donnée à ces événements. C'est-à-dire que ça rend très clair du point de vue peut-être international. Mais je crois que sur le terrain, les uns et les autres, du côté israélien comme du côté palestinien, ont déjà bien en tête ces dispositions et ces tendances très lourdes. C'est-à-dire que les Palestiniens de Cisjordanie savent très bien que le nombre de colons a fait plus que doublé, quasiment triplé depuis le début des années 1990. Ce qui a des conséquences, ce territoire est quand même très réduit, donc ça a des conséquences dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire qu'ils voient les colonies à côté de chez eux, il y a des routes de contournement, il y a des colons qui éventuellement ont un comportement agressif à leur égard. Donc je crois que ça rend visible cette loi des voleurs, puisqu'elle a été appelée comme ça. Voilà. Ce qui est nouveau, c'est que ça devient une loi officielle votée par le Parlement, mais je crois que pour les individus qui sont sur le terrain, la logique était déjà très présente et déjà tout à fait intégrée dans le mental des individus.
C'est aussi une réponse au démantèlement de l'avant-poste d'Amona le 1er février dernier. Il y a un jeu qui Dominique Vidal.
C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Enfin, on démantèle un avant-poste, il y en a des dizaines d'autres, quasiment une centaine. Donc tout cela n'a pas grand intérêt. Ce que je trouve, je partage ce que vient de dire Laetitia Buca, c'est on est devant une clarification de la dimension stratégique posée aujourd'hui à l'ensemble des acteurs. Moi, j'ai guidé un voyage du monde diplomatique il y a quelques mois, de lecteurs du monde diplomatique en Israël et en Palestine, et nous étions rentrés tous avec la conviction que quelque chose se passait, c'est-à-dire on ne nous parlait plus des deux États, nulle part. Tout le monde était dans l'optique de un seul État, et qu'est-ce que ça va être cet État. Et y compris du côté palestinien, si je mets à part le représentant de l'autorité, qui évidemment était resté, pour des raisons évidentes, sur l'orientation ancienne, si je puis dire, cette question est posée en grand aux militants et aux militants de l'ensemble des partis palestiniens. Ce qui m'a beaucoup frappé ces derniers jours après le vote, c'est un texte publié sur Facebook, parce que beaucoup de choses se passent maintenant sur Facebook, par Majed Bamia, qui est un jeune diplomate palestinien formé chez Alain Diakov à Sciences Po, à Paris, et qui est un homme qui fait partie du Fatah et de partage son orientation. Et il écrit, il faut changer de braquet, il faut se préparer à la bataille pour les droits nationaux et politiques du peuple palestinien à l'intérieur d'un État. Il faut, dit-il, engager la bataille contre l'apartheid. Alors c'est très intéressant, comme sur le fond, mais c'est très intéressant aussi que ce soit un homme comme lui qui écrive cela, parce que ça veut dire que l'ensemble des militants et plus largement du public politisé, je dirais palestinien, est confronté à une situation nouvelle. Et dans un contexte où l'extrême droite israélienne profite aussi de la marginalisation de la question palestinienne par les crises syriennes et irakiennes. Donc elle espère, à l'ombre de tout ce tumulte, de tout ce chaos, faire passer des faits, comme on dit, c'est le langage sioniste traditionnel, des faits sur le terrain. Et je pense que là, on a la définition d'une nouvelle ère. La seule question qui, pour moi, est une question avec des points d'interrogation importants, c'est dans quelle mesure la communauté internationale, qui s'est prononcée avec clarté au Conseil de sécurité du 23 décembre, mais aussi à Paris, à la conférence du 15 janvier, elle va réagir et comment à ce qui se passe. Moi, je parie que la décision du Parlement israélien est tellement violente, tellement terrible du point de vue du droit interne et externe, que la communauté internationale ne pourra pas rester les bras ballants comme elle l'est depuis des années. C'est-à-dire il y a là un pas qualitatif qui appelle une réaction majeure, beaucoup plus que ce qu'on a entendu ces derniers jours. Quelques regrets, un report de réunion au sommet avec Israël au niveau de l'Union européenne, une déclaration intéressante du nouveau secrétaire général des Nations Unies, mais enfin tout cela ne fait pas, loin de là, une réaction au niveau de la provocation, si on accepte le terme provocation.
Et Mahmoud Abbas était à Paris cette semaine, Alain Dukoff.
Moi, ce qui me frappe, c'est en effet qu'on est dans un écart de plus en plus béant entre ce qui est proclamé au niveau de la diplomatie internationale, et ça a été le cas encore dans le discours un peu d'adieu de John Kerry en décembre, qui réaffirmait les paramètres grosso modo dit Clinton de décembre 2000, et ensuite et tout ce qui s'en était suivi sur finalement l'idée qu'il faut deux États, et en effet aussi la conférence de Paris de la mi-janvier où les 70 délégations ont réaffirmé cette logique là et en fait ce qui se passe sur le terrain qui va complètement dans l'autre sens et qui de fait est une réalité, qu'on le veuille ou non, d'une entité politique, d'un État entre guillemets unique quelque part, mais évidemment interprété de façon radicalement différente par d'un côté la droite nationaliste du côté israélien et de l'autre côté les Palestiniens. C'est-à-dire que là, ce qui se joue, c'est que d'un côté, Bennett l'a dit, je suis partisan d'un État unique. Il l'a dit. Il est contre les États. Mais évidemment, l'État unique qu'il envisage, c'est un État où Israël resterait dominant, où il dominerait d'une façon ou d'une autre, à des degrés variables, les Palestiniens. Donc ça, c'est très clairement son option. Et de l'autre côté, évidemment, les Palestiniens, qui sont de plus en plus nombreux, y compris dans le courant majoritaire du Fatah, à considérer que aujourd'hui, la solution des deux États n'est pas faisable, qu'il faut se battre sur un autre terrain. Mais évidemment, le terrain, là, il est différent. C'est, s'il y a une réalité unique, eh bien, il faut qu'on se batte au sein de cette entité unique pour obtenir des droits. C'est-à-dire que si les Israéliens commencent à rentrer dans une logique d'annexion, y compris de terres privées, c'est-à-dire de fait considérer que c'est quelque part leur espace de déploiement, y compris au niveau légal, eh ben nous on va faire la même chose. On va se battre à l'intérieur de cet espace-là. Et là évidemment, il risque d'y avoir, si on continue à aller dans cette direction, une lutte politique extrêmement intense dans les années à venir.
Dominique Vidal.
Un tout petit ajout à ce que dit Alain Dukoff, que je partage. Il faut être attentif au fait que dans la droite, je ne parle pas de l'extrême droite, mais la droite israélienne, il y a un débat un tout petit peu plus complexe, c'est-à-dire le vieux Likoud, le Likoud jabotinskiste, celui qui reste dans la ligne de Zev Jabotinsky, lui, il est plutôt favorable à l'idée d'un seul État avec les droits de citoyens pour les Palestiniens. Si l'on écoute le président israélien, Rivlin, il l'a redit récemment. Si on écoute Benny Begin, il a dit la même chose, d'où la position de dénonciation d'une loi des voleurs. C'est-à-dire, il y a une difficulté pour les Israéliens, même de droite, les plus honnêtes, disons, pour aller vite, avec un jugement un peu de valeur, une difficulté à accepter qu'on passe à l'annexion sans que cela s'accompagne de la logique, après tout. C'est-à-dire, s'il y a un État, tous les gens qui y vivent en sont des citoyens et doivent avoir leurs droits, y compris le droit de vote. Donc là, il y a une marge quand même, à mon avis, de discussion. Hein.
C'est vrai. Mais le courant le plus, en fait, constitué de gens plus jeunes et qui est vraiment nationaliste, n'est pas sur cette ligne. Donc, et c'est plutôt lui qui est en phase politique ascendante. Donc, je dirais que c'est ça qui est aussi en train de se jouer à l'intérieur de la droite. C'est-à-dire que les représentants d'un courant un peu plus, disons, entre guillemets, libéral, sont aujourd'hui un peu sur la défensive.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Laetitia Bucaille et Alain Dukoff et Dominique Vidal, dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur la question israélo-palestinienne après l'adoption par la Knesset, le Parlement israélien, d'un texte légalisant des avant-postes construits sur des terres privées palestiniennes en Cisjordanie. Il y a quelques jours de la visite à Washington du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de la rencontre prévue avec Donald Trump, nous retrouvons nos invités. Laetitia Bucaille, professeure de sociologie à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, auteure de Palestine, de l'État introuvable à la nation en déroute. À quoi servent les dirigeants palestiniens? Une étude du CERI, le Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Alain Diekhoff, directeur du CERI, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier à paraître en avril prochain, Le conflit israélo-palestinien, chez Armand Collin. Et Dominique Vidal, journaliste et historien, directeur avec Bertrand Badi, de l'État du Monde, aux éditions La Découverte. Cette année 2017 marque un double anniversaire, celui de la guerre des six jours de 1967 et le centenaire de la déclaration de Balfour, faite par les Britanniques de constituer un foyer juif en Palestine. Le conflit était ces dernières années redevenu un conflit de basse intensité. Est-ce que les choses sont amenées à changer? En tout cas, vous l'évoquiez dans la première partie de l'émission, c'est une ère nouvelle qui sans doute s'ouvre aujourd'hui. Laetitia Bucaille, quelle question se pose aux Palestiniens? On évoquait ce changement de braquette, de logiciel finalement, à mettre en marche. Comment voyez-vous les choses?
Les choses sont vraiment difficiles pour les Palestiniens. D'abord parce qu'ils ont effectivement, enfin, du côté du pouvoir, ils ont vraiment des difficultés à passer à un nouveau logiciel. L'autorité palestinienne coopère encore à l'heure actuelle avec les services de sécurité israéliens. Et elle coopère d'autant plus que finalement, après 2007, après la rupture avec le Hamas, entre l'autorité palestinienne du Fatah et le Hamas, l'autorité palestinienne de Cisjordanie se trouve un ennemi commun avec Israël, qui est le Hamas. Donc le plus grand problème que traversent les Palestiniens, c'est quand même cette division interne qui affaiblit, si c'était encore possible, qui affaiblit encore davantage les Palestiniens. C'est-à-dire qu'il y a un éclatement géographique entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, une déchirure politique très grande.
On parlait presque de guerre civile.
Alors je parle de mini-guerre civile parce que, bon, il y a eu des morts de part et d'autre, enfin, les nombres sont limités, mais c'est-à-dire, ce qui est réel en tout cas, c'est le profond déchirement de part et d'autre et l'impossibilité depuis plusieurs années de trouver une solution de compromis pour se réunifier à nouveau, avec des logiques qui s'approfondissent, parce que finalement, le Hamas gouverne Gaza, a ses propres services de sécurité, ses propres ministères, sa propre administration qu'il a développée, il exerce son pouvoir sur cette petite entité géographique. L'autorité palestinienne a un certain pouvoir sur une partie de la Cisjordanie, certes très entravée par l'occupation israélienne, mais plus le temps passe et plus ces logiques de part et d'autre se développent et plus les uns et les autres ont intérêt à garder, même si ce pouvoir est très limité, le pouvoir qu'ils exercent sur cette petite entité, cette petite partie de la population palestinienne.
Alors, est-ce qu'on peut voir justement avec ce vote de la Knesset l'évolution de la situation, les risques aujourd'hui, les Palestiniens réagir et s'unir, trouver un terrain d'entente? Est-ce que cela est possible, Dominique Vidal?
Je crois que c'est pas un hasard s'il y a eu une relance dans cette période de la tentative de constitution d'un gouvernement d'union nationale palestinien, avec, outre le Fatah et le Hamas, le djihad islamique, ce qui n'est pas sans importance dans la carte politique palestinienne, me semble-t-il. Mais en même temps, on est, avec le vote de dimanche dernier, devant une espèce de saut dans l'inconnu, pour tout le monde. Pour les Israéliens, pour les Palestiniens, pour la communauté internationale. Moi, l'impression que j'ai, j'entends bien ce que dit Laetitia Bucaille, c'est que les Palestiniens sont très pragmatiques. Je ne parle pas des dirigeants, là, je parle de la population palestinienne. On est loin du climat d'escalade de la deuxième intifada, qui a quand même coûté 5000 morts à la population palestinienne, 1000, je le rappelle aussi, aux Israéliens. Bref, il y a quand même un regard porté sur ce qui bouge, et peut-être que Bamia a de l'avance sur d'autres, mais c'est intéressant qu'il ait cette avance. Parce que quand on regarde le rapport entre dirigeants et dirigés, les sondages, alors qu'ils valent ce qu'ils valent, surtout là-bas, mais
Les sondages ont montré un recul de l'idée des deux États et une montée, y compris majoritaire dans les derniers, de l'idée d'un seul État.
Venant du peuple ou bien
oui,
des dirigeants ?
D'en bas. Alors évidemment, c'est une vision très bucolique, je dirais, de l'État unique où chacun va pouvoir voter, etc. Bon, on sait bien que c'est pas comme ça que les choses vont se passer. C'est d'ailleurs la raison, je répète, de l'appel de Maged Bamia qui dit « Préparons-nous à un combat de longue durée contre l'apartheid ». En tout cas, on a une espèce de paradoxe, pour le dire, entre le succès de l'État de Palestine au niveau de sa reconnaissance internationale. On est à 138 États membres des Nations Unies qui le reconnaissent. Il est dans toutes les grandes institutions, y compris la Cour pénale internationale, et ça fait peur d'ailleurs aux Israéliens. Et
reconnaissance puis, comme État non-membre. Hein,
non-membre. Non-membre. Mais vous savez, à l'ONU, ça revient au même. La seule différence, c'est qu'ils ne votent pas dans les votes de l'Assemblée générale. Donc, on a d'un côté l'État de Palestine plus que jamais reconnu, et en même temps, c'est un État qui disparaît de plus en plus rapidement sur le terrain. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose de nouveau. Alors, vous nous dites... Il y a des dates. C'est vrai que c'est intéressant l'année 2017 parce qu'elle va donner l'occasion à une réflexion historique. Vous avez cité Balfour, 1917. Vous avez cité les six jours, la guerre des six jours, 1967. Il faudrait y rajouter 1897, le premier congrès sioniste mondial. C'est quand même le point de départ de toute cette aventure. Et puis, surtout, 1947. Parce que le plan de partage des Nations Unies, voté le 29 novembre 1947, il est maintenant sans doute caduque. Et ça, c'est une situation, je le répète, tout à fait nouvelle et de saut dans l'inconnu.
Alors Dominique Vidal évoquait cette sorte de rupture entre le peuple palestinien et ses dirigeants. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau de la direction et des directions palestiniennes Alain Diakhoff, finalement, je repose la question qu'a pour titre l'étude de Laetitia Bucaï, à quoi vont servir les dirigeants palestiniens?
On a évoqué là, évidemment la séparation géographique, politique entre le Hamas et le Fatah, donc d'un côté à Gaza, de l'autre côté en Cisjordanie. Il faut aussi évoquer en fait les divisions internes au Fatah lui-même, parce que évidemment il y a la position officielle qui est de continuer à adhérer à la solution des deux États que Mahmoud Abbas continue à défendre, mais en même temps le dernier congrès du Fatah en décembre dernier a montré que certes il continue à contrôler l'appareil, mais c'est au prix de l'élimination politique de ses adversaires. Donc ça veut dire qu'il y a des luttes politiques à l'intérieur du parti lui-même, et en particulier Dahlan, qui est depuis maintenant quelques années aux Émirats Arabes Unis, a vu son poids à l'intérieur du Fatah réduit. Donc il y a aussi des luttes internes qui évidemment grèvent, à mon avis, la capacité de mobilisation des Palestiniens politiquement. Donc c'est vrai que dans un contexte qui est objectivement un contexte difficile pour eux, avec cette pression très très forte de la droite israélienne, eux qui sont déjà de toute façon la partie la plus faible, sont encore affaiblis par leur propre division interne. Donc tout ça, évidemment, pour eux, objectivement, n'est visiblement pas très bon. Et les appuis... Et c'est vrai, bien qu'ils aient obtenu cette reconnaissance internationale, ça ne leur sert pas grand-chose, je dirais, dans le rapport de force avec Israël.
Alors la question de la légitimité de Mahmoud Abbas, elle est d'une certaine manière posée. Laetitia Bucaï, quelle relève ?
Alors, il y a un certain nombre de candidats au sein du Fatah, puisque Alain Diakhoff le rappelait, il y a des luttes de pouvoir au sein du Fatah, qui sont pas forcément des luttes qui éclairent des clivages idéologiques profonds. C'est quand même beaucoup des luttes de personnes. Alors effectivement, il y a Mohamed Dahlan qui a très envie de revenir et qui a des ambitions importantes pour exercer des fonctions au plus haut niveau. Alors lui, son grand atout, c'est ses appuis internationaux, et notamment des parrains émiratis, saoudiens, égyptiens, jordaniens. Ça, c'est son grand atout. Évidemment, du point de vue de l'appareil du Fatah, il a beaucoup perdu, puisque Mahmoud Abbas s'était forcé effectivement d'exclure systématiquement tous ceux qui pouvaient apparaître comme de près ou de loin, comme des soutiens de Dahlan. Hein, il a été vraiment dans une logique d'exclusion qui a été très loin. Il a des soutiens sur le terrain, Dahlan. Cela dit, les sondages ne montrent pas non plus un soutien exceptionnel. La personne la plus populaire au sein du Fatah actuellement, c'est Marwan Barghouti, qui est en prison, qui a été capturé, arrêté pendant la deuxième intifada, accusé de complicité pour les attentats suicides palestiniens et qui purge plusieurs peines de prison à vie en Israël. C'est lui, le préféré des Palestiniens, notamment parce que, évidemment, en étant en prison, il est irréprochable. On ne peut pas l'accuser de mauvaise gestion, etc. Aussi parce que lorsqu'il était, avant d'avoir été mis en prison, sous l'autorité palestinienne, quand le processus de paix fonctionnait à peu près, il n'a jamais été du côté des services de sécurité. C'est-à-dire qu'il n'a jamais participé à la coopération sécuritaire avec Israël, qui est bien sûr beaucoup décriée aujourd'hui, étant donné les résultats que ça donne pour les Palestiniens. Et puis, troisième raison aussi du soutien des Palestiniens à son égard, c'est le fait qu'il ait été à l'initiative, depuis le début des conflits entre le Hamas et le Fatah, de la lettre des prisonniers, qui est un document qui appelle à l'union des Palestiniens, à la réconciliation entre le Fatah et le Hamas, et qui a essayé de dégager un certain nombre de solutions pour que justement les deux mouvements puissent fonctionner ensemble à l'intérieur de l'autorité palestinienne. Donc il apparaît à la fois comme droit, un véritable défenseur des droits palestiniens, n'ayant pas coopéré avec Israël, et puis pour l'unité palestinienne. Cela dit, alors on peut imaginer qu'il soit élu, mais enfin, on a du mal à imaginer, étant donné le gouvernement actuel et les forces politiques israéliennes, qu'il soit libéré. Alors donc, toute la réflexion du côté palestinien, et ça rejoint la question de la lutte pour un État et de présenter la situation comme une situation d'apartheid, c'est de présenter Marwan Barghouti comme le Nelson Mandela palestinien. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable enjeu. En tout cas, sa femme et ses soutiens œuvrent véritablement dans ce sens. C'est vraiment l'espèce de message qu'ils essayent de diffuser.
Dominique Vidal.
Oui, je signale au passage que Majed Bamia, dont nous avons parlé, est un proche de Marwan Barghouti, dont il organise la campagne pour sa libération. Donc, il y a là quelque chose qui me paraît intéressant. Je voulais parler de tout à fait autre chose, mais qui me semble aujourd'hui une dimension de la réflexion. Ce sont les Palestiniens d'Israël. Parce qu'ils ont été longtemps considérés en Cisjordanie ou à Gaza, je dirais comme des traîtres qui collaborent avec le pouvoir sioniste. Aujourd'hui, on a une toute autre manière de les voir. Parce qu'après tout, ces Palestiniens d'Israël qui étaient 150 000 en 1948, qui ont échappé à l'expulsion, à la Nakba, ils sont aujourd'hui 1 500 000. Alors, ils restent victimes de discriminations très importantes, directes et indirectes, dans une série de domaines. Mais ils ont les droits des citoyens, ils ont des partis. Ces partis se sont unis au sein de la liste arabe. Ils ont 13 députés sur 120 à la Knesset. Et au fond, tous leurs acquis, il faudrait parler de leur place dans la culture aussi israélienne, parce que c'est une dimension absolument essentielle. Tous ces acquis, ils le doivent à une combinaison très subtile, forgée au fil des décennies, de mobilisation populaire et de négociations avec le pouvoir israélien, même si l'État d'Israël, qui était se voulait juif et démocratique, dans les débats, y compris constitutionnels, si on peut utiliser ce terme, il est devenu de plus en plus juif et de moins en moins démocratique. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui un texte de loi disant État juif et démocratique passerait à la Knesset telle qu'elle est. Donc on a aussi ce regard sur cette expérience d'un 1 500 000 Palestiniens d'Israël, qui est sans doute, si on se tourne vers la lutte contre l'apartheid, pour les droits politiques des Palestiniens au sein d'un État unique à venir, c'est une expérience extrêmement intéressante.
Alors on évoquait dans la première partie de l'émission la question de la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle peut faire, quels sont ses moyens d'agir sur ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Il nous reste 6 minutes pour finir cette émission, le temps passe très vite, mais finalement là aussi, fin de la solution à deux États, solution à un État, comment voyez-vous les choses, Alain Diakhoff, pour
C'est-à-dire, mon sentiment, c'est que la communauté internationale, elle est dans une situation, dans le fond, de désarroi, parce que les outils qu'elle a forgés progressivement au cours des 15 dernières années, qui paraissent quelque part sans doute des outils raisonnables, c'est-à-dire que oui, la logique, c'est que si on ne parvient pas à s'entendre, et ça fait très longtemps que ça dure, puisque ça fait en effet un siècle qu'il y a eu la première reconnaissance internationale du mouvement sioniste via la déclaration Balfour, si on ne parvient pas à s'entendre, oui, la bonne idée, c'est de partager le territoire. Le problème, c'est que il n'y a jamais eu dans ce conflit les choses n'ont jamais été alignées. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu au même moment les Israéliens d'un côté, les Palestiniens de l'autre et la communauté internationale qui étaient d'accord pour avancer cette idée. Donc il y avait toujours quand deux, éventuellement sur les trois, étaient sur cette ligne, le troisième ne l'était pas et ainsi de suite. Bref. Le problème, c'est qu'on en est toujours là, avec malgré tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire que sur le terrain, la situation s'est énormément compliquée. Le mouvement de développement des implantations juives s'est accéléré de façon évidente. Et donc, du coup, dans la pratique, la solution des deux États est la plus difficile aujourd'hui à mettre en œuvre que même en 1993-1994. Moi, je pense que pour le moment, il n'y a pas de plan B. La communauté internationale n'a rien à proposer, en réalité, sur ça. C'est pour ça qu'elle s'accroche un petit peu tout le temps, même de façon un peu incantatoire, à cette idée de solution des deux États. Mais moi, je pense qu'il serait là aussi sans doute inévitable à un moment. Et peut-être qu'en effet, de ce point de vue-là, le 50e anniversaire de la guerre des six jours pourrait être un bon moment pour poser ça, qui est vraiment de dire que si en effet la solution des deux États n'est tout simplement plus faisable, et si en particulier le gouvernement israélien ne l'accepte plus, il faut que, dans ce cas-là, il y a une logique de reconnaissance d'égalité des droits. Je ne vois pas comment c'est possible de sortir de ce dilemme.
Laetitia Bucaille.
Oui, alors, bien sûr, cette solution d'un État peut apparaître comme un horizon assez optimiste et comme la solution. Cela dit, il faut bien avoir en tête le fait qu'une solution à un État, ça peut vouloir dire des choses extrêmement diverses. Et rappelons que l'extrême droite israélienne est pour une solution à un État. Le Hamas palestinien aussi, au départ, est pour une solution à un État. Alors évidemment, ils ne mettent pas exactement la même chose là-dedans. Et donc, à l'intérieur de cet État, se pose évidemment la question démographique que chaque parti essaiera d'emporter. Mais on comprenait si les Palestiniens par exemple se rallient à l'idée d'un seul État avec cette idée justement de remporter la partie démographique, on n'est pas exactement dans les mêmes dispositions que simplement si on lutte pour l'égalité des droits dans un État dans lequel on se reconnaît.
Alain Diakhoff.
Simplement, je pense que la lutte pour l'égalité des droits peut être un moyen finalement de faire peut-être de ce point de vue-là, indirectement pression sur Israël pour qu'il aille vers la solution des deux États, paradoxalement. C'est-à-dire que c'est l'opposition même de l'idée sioniste qui était d'avoir évidemment un État juif. C'est en ce sens-là que je voulais dire.
Dominique Vidal.
Je crois que quelle que soit l'issue, deux États, un État, ce qui va être important, c'est pas les votes à l'ONU, malheureusement, c'est la mobilisation de l'opinion publique internationale. Et je dois dire que on oublie, quand on parle de la campagne, par exemple, boycott des investissements, sanctions, qu'il ne s'agit pas seulement d'une campagne militante. Ce sont des fonds de pension, des grandes entreprises, des banques qui désinvestissent des colonies, voire d'Israël. Et tout cela a des conséquences. La Rand Corporation estime qu'on peut avoir jusqu'à 4 à 5 milliards de dollars par an de coûts pour l'économie israélienne. Donc ça, c'est un élément, quelle que soit l'issue, qui va peser, qui doit peser, à mon sens, pour que les choses avancent.
Une puissance de levier. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Laetitia Bucaille, professeure de sociologie à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, auteur de Palestine, de l'État introuvable à la nation en déroute, à quoi servent les dirigeants palestiniens, une étude du CERI, le Centre de recherche international de Sciences Po, Alain Diakhoff, directeur du CERI, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier à paraître en avril prochain, Le conflit israélo-palestinien, aux éditions Armand Collin, et Dominique Vidal, journaliste et historien, directeur avec Bertrand Badi de l'État du Monde aux éditions La Découverte. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Mathias Taylor. Demain, Géopolitique se demandera dans quelle mesure nous assistons actuellement à une course aux armements. À demain.